J'ai commencé par faire un décompte jusqu'à 10. On peut sauter directement à 3, 2, 1. Ce soir, on est live. Pourquoi je recommence? Parce qu'ensuite, sur YouTube, je pourrais couper la première partie où Lauriane m'a fait foirer mon live de 15 minutes. Merci beaucoup.
C'est bien
Et ensuite, elle allait demander mon numéro dans les commentaires. Donc ce soir, on reprend entre gens sérieux et avec Lauriane, avec qui on se tape toujours des barres. Franchement, c'est ça qui est magique avec toi quand même. C'est que on rigole quand même bien. Lauriane, pour ceux qui n'étaient pas là il y a un quart d'heure, est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es? Je vais te reposer les mêmes questions, il faudra répondre de la même manière.
Lauriane Dolo, je suis en équipe de France de Kaikoi et voilà, je prépare les Jeux Olympiques de 2024 et voilà, le kite c'est ma vie et voilà.
C'est exactement ce que tu avais dit le kite, c'est ma vie. Et en fait, ma question, donc je la repose parce qu'on commençait à la développer, c'était vraiment super intéressant. C'est, tu m'as dit, Alexis, on a commencé le foil en même temps. Moi, je suis à l'eau tous les jours. Moi, je suis à l'eau. Je suis à l'eau pas tant, pas que ça de l'année. C'est pas français ce que j'ai dit, mais je fais 50 sessions par an quand même. En revanche, je pense que je manque de discipline quand je fais ces sessions de kite. Parce que ça m'amuse plus d'aller faire ce que je sais déjà faire plutôt que de me mettre dans une mauvaise position. Et donc je sais pas si tu as prévu d'ouvrir des semaines de training, mais je serais ravi de t'en acheter une. Mais non, mais je pense que ça me ferait vraiment du bien. Ma question c'était quelle est la part de talent, on en était là, et quelle est la part de travail?
Du coup, ouais, je disais, je pense que le talent, il a de l'importance, oui et non, parce que je pense que toute personne qui met toute sa volonté dans quelque chose, bah, normalement, si tout se passe bien, quand même, elle finit quand même par être récompensée. Après, je dirais que le talent, c'est un avantage, c'est comme je disais exactement tout à l'heure, hein, t'es un glissou ou pas, t'es un matheux ou pas. Et je pense que peut-être que le talent a pu m'aider, je sais pas. Mais ouais, en tout cas, non, donc que t'aies du talent ou pas, si t'as un objectif, là, nous, on s'entraîne comme des fous, on a tous le même objectif. Et donc, le but, c'est que t'aies toutes les cartes en main pour arriver à ton objectif, quoi.
Et justement, comment est-ce que vous... Parce que là, vous jouez dans une catégorie qui est vraiment le top du top du top. Est-ce qu'à un moment, vous êtes privilégié par l'environnement dans lequel on vous met? Ce qui fait que même si moi, j'étais quasiment aussi bon que vous, vous auriez un avantage qui est celui d'avoir accès à des entraîneurs, etc., qui fait que j'arriverai jamais à vous rattraper.
Ah bah là c'est sûr que par exemple je vais partir de là, pour être en équipe de France en 2023, il fallait faire top 3 aux Worlds. Donc il faut être sur le podium mondial. Et en gros l'intérêt c'est que du coup en fait ces personnes-là qui ont le niveau et qui vont pouvoir amener une médaille au jeu, bah, ils vont mettre tout ce que je parle de la fédération, des coachs et de tout le staff, ils vont mettre tout en leur pouvoir pour qu'on ait absolument tout ce qu'il nous faut. Donc, c'est-à-dire que toi, si tu es un outsider à côté de nous, tu auras peut-être la volonté, mais là, actuellement, nous, on nous donne quand même, on a les coachs, on a le prépa physique, le prépa mental, on a accès au pôle de Marseille, on a du matos qui nous est prêté, qui est acheté par la fédération pour nous, enfin, on peut faire plein de tests. Donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, maintenant, en tant qu'outsider, si tu veux être au même niveau que nous, je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui regarde tes vidéos, tu vois.
Et déjà qu'il n'y a personne qui les regarde, c'était pas mal ça. C'était pas mal. C'était pas mal. Est-ce que j'imagine que tu dois en connaître certains qui sont un peu frustrés par cette situation, enfin, ou qui se disent putain, c'est dommage. J'en ai vu, tu vois, je suis sur un groupe WhatsApp de mecs de Lorient, et là il y a un mec, j'avais déjà entendu pas mal de fois son nom, je sais qu'il est bon, qui nous a dit bah, moi j'arrête là parce que. J'ai pas assez d'argent, justement, j'ai pas les moyens de me mettre dans les conditions pour y arriver. Donc, les gars, c'est la larme à l'œil que je vous dis, je renonce, ça coûte trop cher, j'ai pas les moyens de le faire correctement, et j'arrête. Et tu sentais vraiment que le mec était triste, quoi, parce que je pense qu'il a, enfin, je suis pas là pour juger s'il a le potentiel, mais il se dit, aujourd'hui, je suis pas dans les conditions de mettre mon niveau au max, quoi.
Ben ouais, c'est vrai que là, par exemple, on a eu aussi l'exemple d'Anthony Picard. qui a fait un post il y a pareil en disant que là, je sais plus, ouais, les championnats du monde, c'est peut-être sa dernière compétition parce que justement, il n'a plus les moyens de suivre et que maintenant, tout va trop vite. Et c'est vrai que c'est malheureux, mais je pense que c'est comme tout sport de haut niveau. Au fur et à mesure, dès qu'on se rapproche de l'échéance qui est là, les Jeux Olympiques, les portes se referment pour de nombreuses personnes parce qu'au final, il n'y en a qu'une seule qui va y accéder. Et c'est vrai que c'est hyper triste et je pense que c'est dans le sens que ce serait bien que nos sports se développent et que, par exemple, le kite tour, pour ça, c'est trop bien parce que tu te fais la course avec tes copains, quel que soit le kite que tu as, c'est hyper accessible pour tout le monde. Et du coup, après, c'est vrai que nous, à notre niveau, c'est de la Formule 1. Donc, si tu n'as pas une voiture qui avance, tu peux pas trop espérer faire grand-chose, quoi.
Et il y a aussi un petit côté, plus t'es bon, plus on te donne les moyens d'être bon. Donc t'as des effets cumulés en fait, il y a un moment, ta progression, elle te donne un avantage compétitif qui est énorme par rapport aux autres, quoi.
C'est ça. Là, ça revient toujours pareil, hein. Faut faire les quotas et si tu rentres dans les cases, on va continuer à t'aider et tu vas continuer à augmenter. Mais malheureusement, si à 2 ans des jeux, tu commences déjà à montrer des signes de faiblesse, ils vont pas les malheureusement, la PD va pas les dépenser des 100 et des 1000 dans un athlète qui a pas forcément de chance de leur amener une médaille, quoi.
Ok. Et justement, dans le cas d'Anthony Picard que t'as cité, tu te dis, ce gars-là, il aurait pu basculer du bon côté et puis ça aurait pu aller pas de bol ou en fait, bon après, c'est délicat pour toi de dire, non, il n'avait pas le niveau, tu n'es pas là pour le juger, mais est-ce que tu penses, on va dire d'une manière générale, qu'il y en a qui sont laissés sur le côté parce qu'il n'y a juste pas assez de place pour tout le monde?
Je pense que déjà, le fait de ne pas habiter ailleurs, ça change énormément pour les autres, parce que nous, on a la chance, on a la coach équipe de France, Ariane, qui est ici, donc on a une permanence d'entraînement, etc. Donc c'est vrai qu'avant, il y avait un pôle quand même à Montpellier, mais par exemple Poema, elle a déménagé, elle est venue ici ailleurs, Poema Newland, je sais pas si tout le monde la connaît, mais déjà ça, je pense que c'est une énorme chance pour ceux qui sont ici. Et aussi c'est vrai que les cases au fur et à mesure ça se réduit. Par exemple au tout début c'est mes parents qui m'ont aidé, après Ariane elle a vachement été derrière mon dos. Et c'est vrai que je connais pas du tout la situation d'Anthony Picard, mais je crois qu'il fait encore ses études en plus. Enfin, si t'es pas à fond dans le projet et que t'as pas trouvé des sponsors pour t'aider à financer et que c'est pas 100% de ta vie, c'est hyper dur de continuer, quoi.
Respect. 100% de ta vie. Alors, à propos de 100% de ta vie, je pense qu'on peut parler de 200% de ton mental. Je me souviens que en Grèce, tu nous as fait un truc que j'avais vu que en MotoGP, ou en Formule 1. C'est que tu as réussi à dépasser, je ne sais plus qui c'était, dans le dernier virage. Alors juste pour que vous imaginiez la situation, Lauriane est deuxième et on est au dernier virage juste avant la ligne droite pour passer l'arrivée. Et là, je ne sais pas comment tu as fait, tu as réussi à faire en sorte que la personne devant prenne le virage un peu large et que tu aies juste la place de passer avec ton kite pour lui faire l'intérieur et gagner la course. Alors moi, la première question, c'est quand t'es derrière la minette, c'était qui? C'était Daniela?
Gisela Pulido.
Ok, bon. Quand t'es derrière elle, il reste un virage. A priori, enfin moi, j'avais jamais vu ça. J'ai regardé pas mal de courses. J'avais jamais vu ce move de ma vie. Est-ce que quand t'es derrière elle, tu te dis, il y a encore une chance que ça passe?
En fait, ce qui s'est passé, c'est donc pour remettre le contexte, c'était la finale, donc c'était la dernière chance de gagner les championnats d'Europe. Et j'étais bien partie, et malheureusement, je tombe au premier pré, donc à ma première remontée. Et là, clairement, je me prends une balle dans le pied et je me dis, non, pas à ce moment-là, tu commences à bouillir, et parce que j'étais en place de leader, donc il me fallait qu'une seule manche pour gagner. Donc là, dans ma tête, il y a un tous les scénarios qui se passent, si je l'ai pas, la prochaine, il faut absolument que je la mette, sinon c'est fini. Et c'est vrai qu'il y a un peu une vague d'émotions qui arrive où t'es énervé contre toi, t'as peut-être parti trop fort et d'être tombé. Et de l'autre, t'as absolument envie de gagner parce que cette journée, elle était déjà trop longue et tu veux que cette manche, ce soit la dernière et je peux plus prendre de start, tu vois. Et c'est vrai que maintenant, quand t'es suiveur, c'est un peu le chasseur et le chassé. C'est dès que celui qui est devant, il va faire un mauvais pas, moi, je vais essayer d'en profiter à fond. Et c'est vrai que là, sur ce coup-là, je disais là, parce que pendant les semi-finales, elle avait changé de kite pour passer en 15. Et moi, j'étais en 11 parce que j'étais sur l'eau, j'attendais et enfin, je suis pas rentrée pour changer. Donc, elle avait l'avantage de la grosse taille et du downwind. Mais je savais que ce jibe au travers, donc parce qu'en fait, le parcours de finale et de semi-finale, c'est up and down, comme on fait tout le temps. Sauf qu'après, on a un petit slalom avec du travers, un jibe et du travers. Et là, je savais qu'elle, avec sa 15, elle était pas mal toilée, elle était bien power, et que son jibe, ça allait forcément lui prendre du temps et de l'espace. Et moi, je me suis dit, là, le seul avantage d'être avec ma petite 11 mètres, c'est de me faufiler. Et dès que j'ai vu que son jibe, elle l'a envoyé trop tard, j'ai vu le petit
Putain,
passage,
c'est
là, et je me
ouf.
suis envoyée, quoi.
Ok. Ouais, le petit passage. Je vous invite à aller voir la vidéo. C'est juste incroyable. Et alors justement, à ce moment-là, dans quelle mesure tu te dis, il faut que je mitige le risque? Parce que si je m'en mêle dans elle, on a perdu toutes les deux. Et donc en fait.
Là, il n'y a pas de mitiger le risque. Parce que je disais là, elle était ni première ni deuxième. Là, celle qui était deuxième, c'était Jessie Campman. Et elle avait déjà fait une erreur et elle était out. Donc, dans tous les cas, même si je disais là, mettez une manche, pour moi, ça ne me changeait rien. Juste, j'avais pas la victoire. Du coup, il fallait que je repasse une manche. Mais ça n'augmentait pas forcément le risque que je perde. Enfin, je sais pas
Ah,
si je
ok,
peux expliquer
d'accord.
ça correctement.
Ok.
Donc, en soi, là, c'était tout quoi.
Ok.
C'est voilà, il fallait juste y aller et le faire quoi.
Et justement, est-ce que tu as découvert que tu avais une porte que tu pouvais saisir pour passer à l'intérieur? Ou avant ça, pendant tout le bord, tu te dis, ok, maintenant je vais miser sur le fait que au bout, elle va prendre trop large, parce que quand on voit les images, clairement, elle a pris trop large. Dans ta tête, avant ça, tu t'es dit, c'est un truc qui pourrait arriver?
Franchement, non, j'étais vachement à l'instant présent et j'ai juste, c'est mon cerveau, il a fait tilt dès que je l'ai vu prendre du retard dans son jibe. Déjà, je lui mettais la pression parce que j'étais devant elle, j'ai réussi à la rattraper. Après, au downwind, elle a réussi à me repasser parce que je faisais pas la différence au large. Et là, après, au travers, j'étais assez épaisse, je la lâchais pas et je sais pas si peut-être elle a eu la pression ou elle a pas voulu foirer son jibe. Et voilà, hein. Moi, dans mon cerveau, vraiment, je saurais pas expliquer, mais les connexions se sont faites très rapidement et voilà.
Franchement, bravo. Franchement,
Merci.
bravo. Alors, toujours sur cette partie progression, on va pas parler de toi là.
Ouais.
On va parler du tandem Mazella-Ramcourt, qui
Ouais.
jusqu'à, je dirais, il y a 1 an, tu faisais pile ou face. Il y en avait un des deux qui était gagnant, l'autre deuxième, et vice-versa.
Ouais.
Et là, on s'aperçoit que c'est plus aussi évident. Et je serais curieux de savoir comment est-ce que tu l'expliques. Parce que c'était vraiment le duo gagnant, soit dans un ordre, soit dans l'autre, quoi.
Ouais. Je pense que jusqu'à maintenant, les Français, ils étaient intouchables parce qu'ils avaient de l'avance, c'était les pionniers dans le sport, et qu'on avait cette force de l'équipe de France et d'être un beau groupe qui pouvait s'entraîner. Il y avait une émulation qui se créait et on pouvait tous se tirer vers le haut. Et je pense que les autres nations ont vachement appris de ça et il leur a pas fallu très longtemps pour comprendre comment ça fonctionnait l'entraînement. Et au final, on voit qu'il y a des duos. Des groupes qui se sont formés, par exemple avec Martin Delinck, même les Italiens, ils ont un très beau groupe d'entraînement maintenant. Et je pense que ils ont très bien compris la petite recette magique pour marcher. Et là, le niveau de tout le monde a carrément augmenté. Et Axel et Théo, ils font quand même 3 et 4 au monde. Et je pense qu'ils sont pas loin, ils sont quand même pas loin de la première place. Mais ouais, il y a des mecs qui sont là, qui poussent fort, qui ont les capacités. Et voilà, ils viennent un peu leur mettre le feu aux fesses, mais ça leur fait pas de mal pour s'activer. la patate pour continuer à vouloir être au top, quoi.
Trop bien.
Ouais.
On va parler de sponsoring maintenant, sans nous dire les montants, parce que on s'en fout. C'est
12
quoi?
millions. Pardon,
Ok,
c'est ça.
12 millions. Ok,
C'est
question suivante. C'est quoi aujourd'hui tes sources de revenus? Et dans les grandes masses, en fait, sans dire les montants, quoi, mais les ordres d'importance qui te font. Déjà, t'as dit tout à l'heure que tu avais des gens qui étaient pénalisés parce qu'ils avaient leurs études en parallèle. Toi, tu n'en as pas du tout?
Non, t'es pas pénalisé quand t'as tes
Non,
études, c'est juste
pénalisé,
pendant.
pas au sens administratif du terme, mais c'est juste qu'ils ont la tête dans deux projets et c'est plus compliqué pour eux. Toi, tu n'as que ce. Enfin, que. C'est déjà énorme, mais. Tu n'as pas un cursus d'études ou un job à côté?
Moi, j'ai fini mes études, j'ai fait un master 2 dans le numérique et j'ai fini il y a un an et demi. Et c'est vrai que pour ça, je suis trop contente parce qu'au moins là, je suis âgée. Et comment je peux vivre du kite? C'est clairement, moi, c'est la fédération. En fait, la fédération, pour les athlètes, ils ont lancé un programme avec l'ANS, l'Agence nationale du sport, où ils font des CIP, donc c'est des contrats d'insertion professionnelle. Et donc, c'est des contrats qu'on a avec des boîtes, des clubs qui seraient intéressés pour faire ça et qui payent une partie de notre rémunération. Et l'Agence nationale du sport paye l'autre moitié. Et en gros, ils se font un petit micmac entre eux et qui profitent aux sportifs et qui nous permet soit de selon la boîte, d'avoir un emploi du temps hyper aménagé et de bosser 20%, mais d'être payé à 100%. Soit, par exemple, moi, c'est avec le CREC de hier. Donc, par exemple, c'est Ariane, ma big boss, tu vois. Et là, clairement, sur mon bulletin de salaire, il y a marqué athlète de haut niveau. Et c'est comme ça que moi, je vis. Et d'un autre côté, on a aussi la fédération. Donc, avec nos quotas, on rentre dans des petites cases, on a des petits tiroirs comme ça. Et selon dans quel tiroir t'as des niveaux d'aide différents. Et par exemple, nous, quand on est en équipe de France, dès que la fédération, pour eux, par exemple, c'est un déplacement qui est justifié, donc les championnats d'Europe, les championnats du monde, etc., on est remboursé sur tous nos déplacements, tous nos entraînements. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et après, tu as tous tes sponsors privés, plus t'es bon et plus t'en as. Hein.
Et
Enfin,
alors,
plus t'es bon en communication, sponsoring, marketing, hein,
je.
pas forcément sur le
Pas sur le
basket.
niveau. Et justement, ça t'en as. En fait, je te dis ça parce que ça me fait toujours marrer de refaire des ponts avec les interviews que je faisais il y a 3 ans. Il y a 3 ans, Mazella, il était content que Ozone lui file 4 kites dans l'année et qu'il puisse les revendre à la fin de l'année. Est-ce qu'aujourd'hui, alors, pas forcément dans tout cas, mais si quand même. Les contrats, ils ont évolué et maintenant c'est t'as tes kites plus un chèque.
Je dirais que c'est plutôt l'inverse parce que
T'as ton chèque et
moi,
pas tes kites.
bon, sans... comment?
T'as un chèque mais pas des kites.
En soi, là, quand même, l'industrie du kite, en tout cas, nous, sur le kitefoil, est vachement en train de se rapetisser, si je peux dire. Et Playsurfer, ils sont en train de vendre des milliers de kites, donc ils n'ont plus trop d'intérêt de donner des kites à tout le monde, vu que tout le monde les achète. Ozone, eux, je pense que là, c'est un peu... C'est pas l'inverse, mais parce qu'ils marchent toujours aussi bien, mais c'est pareil, ils ont leur team et ils n'ont pas besoin de personne en plus. Et puis, je pense que c'est quand même des marques. On est dans une petite industrie. Ils n'ont pas des 100 et des 1000. Y a pas... Enfin, moi, par exemple, même aujourd'hui, en tant que vice-championne du monde, si j'envoie un message à Ozone, ils vont me dire, ouais, peut-être qu'on peut te prêter des kites ou alors te faire des prix. Mais franchement, donner des kites, maintenant, c'est devenu compliqué, quoi. Et
Incroyable.
Playsurfer, non, vraiment même pas.
C'est ouf. Ok.
Ouais.
Alors que. Parce que. Attends, excuse-moi, un petit update. T'es toujours sous Flymax ou t'as changé et t'es sous Ozone?
Non, moi, cette année, j'ai décidé de plus marquer, plus rider pour une marque quelconque. J'achète mon matériel et j'utilise absolument ce que je veux, parce que vu que j'ai pas les mêmes marques, selon les tailles, au moins je suis tri, quoi.
Ok, tu viens de me spoiler le teaser que je t'avais fait tout à l'heure, mais on y reviendra. On y reviendra. Ok, Ok, et donc pas de sponsoring financier Kite et sponsoring financier d'un autre partenaire?
Moi, en privé?
Alors, bah, je ne sais pas si c'est en privé ou en public, mais est-ce que tu es soutenu, j'en sais rien, par
Il y
des...
a les soutiens que je peux avoir à mes parents. Non, sinon, on a l'ENGIE quand même, parce que nous, on est ambassadeur et quand on va sur l'ENGIE, on est rémunéré. Donc, ça paraît peut-être anodin, mais ça peut quand même te payer deux kites. Donc, c'est déjà bien, deux, trois kites. Et voilà, sinon, non, là, je suis en plein dessus. J'ai un agent qui commence à travailler pour moi et qui va m'aider à trouver des partenaires. Donc là, c'est en cours, rien n'est signé, rien n'est acté, mais on y travaille, quoi. Mais c'est vrai
Génial.
que jusqu'à maintenant, non, c'est Fédé et l'ENGIE. Et après, j'ai la métropole, etc. On a toutes les subventions, région, département, TPM. Mais c'est des subventions. Sinon, non, j'ai pas une marque en gros
Ok.
écrite sur ma combi, quoi.
Alors, on passe au sujet que tu avais spoilé et que je trouve super intéressant, c'est que effectivement tu t'es mis dans une position où tu es libre de prendre les kites que tu veux. Et effectivement, je me suis aperçu que sur certaines courses, tu n'étais pas la seule à avoir une marque dans les grandes tailles, une autre dans les petites. Est-ce qu'il y a des coureurs qui ont justement le logo d'une marque en question sur leur combi, qui sont obligés de dire à un moment à leur sponsor, t'es gentil, mais en fait, si tu veux que je gagne la course, t'es obligé de me laisser prendre une autre aide.
Elle est bonne ta question, hein?
Ben, j'en sais rien, hein. Je pose des questions innocentes.
Non, c'est vrai que aujourd'hui, de voir quand même qu'il y a des ailes qui marchent mieux dans certaines conditions que d'autres. Par exemple, la 21 mètres Fly Surfer, maintenant il y a quasiment tout le monde qui l'utilise, 21-23. Et donc, ouais, le lien direct, Axel, Rider Ozone, je pense que je sais pas ce qui s'est dit avec Ozone ou pas, mais. Et en tout cas, pour la mission-là de compétition, il est autorisé à utiliser une autre marque pour faire les résultats. Parce que là, je pense qu'au bout d'un moment, il faut que la discussion, elle soit aussi autour de l'athlète et autour de ses projets. Et je pense que même si tu es athlète pour une marque et que tu veux la pousser jusqu'au bout, tu as aussi de l'autre côté ton désir de performer personnellement. Donc, il faut faire des compromis. Et je pense que de toute façon, c'est des relations qui sont là depuis des années et que c'est pas pour un petit kite pendant deux compètes que ça va s'arrêter comme ça. Et moi, c'est ça que je trouve hyper beau, c'est qu'ils arrivent à faire des compromis et à continuer là-dessus. Mais c'est vrai que de toute façon, plus on va avancer et plus on va arriver sur des échéances et plus il va falloir choisir bonne chaussure à son pied pour les bonnes conditions. Et donc, malheureusement, même si tu as parié sur ce cheval-là, c'est pas toujours lui qui va gagner, quoi.
Et dans les règles de la compète, il faisait des kites qui ont été homologués. Ensuite, à l'intérieur de ça, tu fais le quiver que tu veux avec les marques que tu veux.
C'est ça. Du coup, il y a plusieurs marques qui ont payé les homologations quand il y a eu les enregistrements au début. De la prépa, je crois que c'était en 2020. Ouais. Et par exemple, voilà, il y a Jean Kiteboarding, F1, Fly Surfer, Ozone et même peut-être d'autres marques, mais qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui, qui ont tous payé les homologations. Et toi, à partir du moment où ton kite, la marque a payé son homologation IKA, tu peux l'utiliser. Donc par exemple, si, je sais pas, hein, mais si une Enata, à l'époque, ils avaient payé l'homologation et que c'est encore à ce jour, tu peux te ramener sur une compète avec une Enata, quoi.
Ok. Pour ceux qui savent pas, Enata, c'est une marque qui a fait je pense, des bonnes ailes à une époque, mais qui
Ouais.
sont un peu dépassées aujourd'hui.
Ouais, ils sont complètement arrêtés, je crois.
Est-ce qu'on voit la même chose arriver avec les foils? Grosso modo, il y a deux marques qui se démarquent justement,
C'est ça.
Levitas et Shubanga. Est-ce qu'on voit deux choses arriver, ou on va voir deux choses arriver, soit tout le monde avoir le même foil, soit des gens utilisés, mais ça je le vois moins possible. Un foil dans le light, un autre dans le vent un peu plus fort.
Pour l'instant, il n'y a pas vraiment en fait, un foil, le truc, c'est que tu peux pas switcher comme ça parce que finalement, un Levitas, c'est quand même très différent d'un Shubanga. Moi, j'ai toujours l'habitude de rider avec un Levitas, et par exemple, sur un Chubanga, j'ai l'impression d'être en danger complet, alors que pour d'autres, c'est le même feeling sur un Levitas. Donc, je pense que le foil, c'est plus par rapport à ton type de ton style sur l'eau, je dirais. Et on voit quand même une petite tendance. Il y a beaucoup de filles qui utilisent des Chubanga, mais après, au final, quand tu regardes le top 3, les trois filles sont en Levitas. Donc, enfin, tu vois, si t'as 80% de la flotte en Chubanga, mais que le top 3, ils sont tous en Levitas, est-ce que ça veut dire grand-chose, les chiffres, au final, tu sais pas
Ouais.
trop. Je pense que non, sur les foils, ouais, pour l'instant, il n'y a rien de trop fait, quoi. Mais bon, moi, je suis team Levitas, en tout cas.
Et donc, à ton avis, ça pour le coup, il y a de fortes chances pour que ça reste pareil. C'est-à-dire que
Ouais.
au moment des JO, il n'y aura pas une monotypie qui va se dessiner.
Ouais, pour ça, franchement, pour l'instant, je ne saurais pas te dire. Je pense que voilà, on peut pousser vers un foil ou un autre parce que chaque foil a ses points positifs et ses points négatifs. Et après, je pense que ça va vachement dépendre. Par exemple, là, selon les plans d'eau, il y a des foils qui sont mieux que d'autres. Donc, par exemple, un exemple vraiment bête, hein, un Levitas dans l'eau claire, quand tu es dans un lac, ça glisse fort. Mais par exemple, tu prends un Levitas et tu mets 45 algues dessus, ça commence à être compliqué. Alors que le Chubanga, tu mets 45 algues dessus, au final, tu as l'impression d'en avoir 3, mais sans plus, quoi.
Ok.
Et c'est vrai que selon les spots, je pense qu'on peut commencer maintenant à un peu faire des différences. Mais on n'en vient pas. Alors, trop, ouais, la différence est trop énorme entre
Ouais.
les deux.
Petite question du chat.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a dans une semaine type d'entraînement, si semaine type ça existe? Mais je pense que tu as parlé de pas mal de choses. Tu as parlé de préparation physique. Tu as parlé d'être dans l'eau et de préparation mentale. Est-ce que tu peux à minima, enfin, si tu peux répondre à la question semaine type, c'est top. Mais sinon, nous dire un peu qu'est-ce qu'il y a en profondeur sur cette partie entraînement.
Ouais, je pense que semaine type, on n'en a pas forcément parce que c'est très dur d'avoir une semaine comme une autre. Mais si je peux te donner un mois type, par exemple, ça va être, je vais voir ouais, deux fois mon prépa mental. Je vais essayer d'avoir entre 3 et 4 séances de prépa physique par semaine. Selon si on est en été ou en hiver, l'hiver, je vais tout faire pour m'en aller et aller naviguer au chaud. Après, le but, c'est de toujours avoir le maximum de temps sur l'eau. C'est pas, en vrai, naviguer le plus possible, je dirais que c'est plus dans ma philosophie à moi, tu vois. C'est que je sais que si pendant 2 semaines, je navigue pas, je vais un peu commencer à paniquer et me dire, attends, là, les gens à côté, ils sont en train de nav, je suis en train de perdre des heures par rapport aux autres. Enfin, tu vois, c'est un peu dans ma tête, c'est la panique. Alors que je pense qu'il y en a d'autres. Mais par exemple, là, je pense à Axel qui est en vacances à l'île Maurice. Il reste 2 mois là-bas, tranquillou. Je pense que tu vois, il y en a qui ont besoin de faire le vide et de se redonner l'envie de nav. Parce qu'ils ont besoin de la petite étincelle. Alors que moi, même si par exemple, demain, j'ai pas envie d'aller nav, il faut que j'y aille parce que sinon, je stresse, tu vois.
Ok. Et tu vas me faire croire qu'Axel, il est parti sans kite à l'île Maurice?
Si, mais voilà, il est quand même à l'île Maurice.
Ok. Bah, c'est un endroit où il
Lui,
fait chaud en hiver pour continuer à s'entraîner. On pourrait le voir comme ça, mais.
demandera combien de sessions de kitefoil entraînement il a fait en 2 mois, et voilà.
Ok, ça marche. J'avais prévu de te poser cette question vers. Attends, si, avant, je voudrais juste finir sur la
Moi, j'ai une
préparation
super
mentale.
question là.
Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a une super question en vrai.
Sur la salade ou les pâtes?
Non, ça c'est Benoît et je suis plutôt pâte quand même. Mais non, celle de Clément.
Attends, mais donc déjà on va faire salade ou pâtes, donc plutôt pâtes. Et ton dessert préféré?
Moi?
Ton dessert préféré?
J'aime bien la panna cotta à fruits rouges.
Putain, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas
Ouais.
mal. Donc merci Benoît. Avant de poser la question de Clément, juste pour finir sur la préparation, c'est quoi de la préparation mentale?
Alors, la préparation mentale, c'est comment est-ce que je peux expliquer ça simplement. Donc en fait, au début, quand tu commences la préparation mentale, c'est vachement de l'échange. Moi, il s'appelle André, mon préparateur mental, et il a l'habitude de travailler avec les Kyferleux parce qu'il a toujours suivi les équipes de France. Et bah, c'est juste un apprentissage de savoir comment est-ce que tu fonctionnes, si tu es plutôt un stressé ou un posé, un organisé. Voilà, et le but, c'est qu'on va essayer de te créer des outils qui vont faire que dans des situations où tu n'es pas forcément dans une situation comme tous les jours, où voilà, là, tu vois, on se parle, on est tranquille, où là, on va mettre du stress, on va mettre de l'enjeu et de la fatigue ou enfin de tout, et on va essayer de te créer ta bulle et de désancrage, on appelle ça, qui vont faire que tu vas pouvoir revenir dans ton état de forme et dans ton état de performance, en gros.
C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que il fallait que je finisse une vidéo l'autre jour que j'ai pas sortie encore, et il m'est arrivé une merde au boulot sur ma boîte perso. Et forcément, ça t'affecte, tu vois, il y avait un petit enjeu financier et tout. Et en fait, je sais que moi, je suis incapable de te pondre quoi que ce soit de créatif quand c'est pas 100% nickel dans ma tête, quoi. Et je me dis, bah vous devez avoir peut-être un peu les mêmes sujets. T'es à 4 jours des JO, il y a quelqu'un qui décède dans ta famille, même un peu éloigné, ça t'affecte, donc ça va affecter ta performance. Et donc, ce que tu dis, c'est que là, on vous aide évidemment, on reste des êtres humains, mais à avoir des outils pour à minima limiter la casse.
Carrément, c'est moi j'étais très dubitative, et au final là j'en demande toujours plus. Avant j'étais à une fois par mois, maintenant je fais deux fois par mois, parce que c'est hyper sympa de pouvoir discuter avec quelqu'un qui te connaît et tu peux vraiment parler de choses en profondeur. Et par exemple, j'ai un exemple parfait, Gisaria. L'année dernière, pour moi, ça avait été un enfer. J'avais fini 76e, j'avais même pas fini la compétition. C'était vraiment la descente en enfer. Cette année, en arrivant là-bas, j'avais les boules. J'avais peur de cet endroit. Je savais que l'événement était compliqué. Et clairement, la veille, j'étais au téléphone avec mon prépa mental en lui disant j'ai même pas envie de faire cette compétition. Je suis pas bien, je sais que je vais faire de la merde. Enfin voilà, c'est un peu la descente aux enfers. Et au final, voilà, petit col avec mon prépa mental, il te remet les idées en place, il te dit non, mais tu sais, regarde, tu sais très bien de quoi t'es capable. Et au final, c'est tout con, mais demain, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Tu vas aller faire du kite, le truc que tu fais tous les jours de toute l'année. Donc pourquoi tu te mets dans des états pareils? En gros, c'est si simple que ça, mais tu as besoin de quelqu'un qui te le dit et qui te le répète 20 fois pour que tu vois, ça rentre dans le crâne et que ça y reste, quoi. Et au final, voilà, cet événement, je le gagne et j'y vais et je suis carrément à l'aise et je gagne quasiment toutes les manches et je suis trop bien parce que je me suis rappelé que je faisais juste le truc que je fais tous les jours et que j'ai ma planche, mon kite et voilà, quoi. c'est aussi simple que ça, mais tu as besoin de quelqu'un qui t'aide et pour faire rentrer le message, quoi.
Trop bien. Alors, à propos de planche, excellente transition, sur la question de Clément Fouet. Voilà, je vais pas aller chercher des photos, mais tu as une déco qui est perso sur ta board. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, alors, cette planche, c'est parti d'une idée que, comme il dit Benoît, il me connaît trop bien, j'ai pas un master en création numérique, donc c'est du design. Et à l'époque, moi, j'étais en couple avec Connor Bainbridge, qui fait les planches Blue Fox Board. Et c'est lui qui fait les planches. Et du coup, c'est vrai que j'y ai vu la possibilité de me faire une planche à moi et qui sortait de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que, par exemple, les planches de snow, les planches de skate, je trouve ça trop stylé. Et je trouve que notre sport, il est carrément stylé aussi, mais que nos planches sont plus qu'ennuyantes. Et j'ai voulu, je sais pas, sur un grain de folie, me faire une planche. J'ai commencé à dessiner un truc, à me prendre un peu pour Jack Sparrow sur son Black Pearl. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un Kraken ou un truc comme ça. Et voilà, je suis partie dans l'idée de faire des dessins avec plein de couleurs et de sortir un truc qu'on allait voir sur l'eau, quoi.
Et donc, c'est toi qui l'as dessiné?
Ouais, c'est moi qui l'ai dessiné.
Quel talent.
Avec un petit stylet sur ma tablette et voilà, on... En fait, c'est hyper simple, tu te fais ton dessin, C'est là pour toute l'histoire de ma planche, c'est une boîte qui s'appelle Boardlams, qui est en Angleterre. Et ils font que ça, de la lamination sur. D'imprimer pour faire de la lamination. Donc en gros, ma prochaine planche, je pourrais mettre une photo de ta tête dessus. Il suffit que je leur envoie la photo de ta tête. Je leur dis, je veux que tu m'imprimes ça sur ces dimensions-là. Donc ma planche, ouais, 140 par 40. Enfin, pas 140, mais bref.
On a compris, ouais.
Et voilà, ils me l'impriment. Et après, quand on est à la lamination, tu viens poser ça, petite couche d'époxy sur ta planche, hop, 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 tu fais ça bien et t'as la petite photo.
Et donc, c'est dans tes plans d'avoir ma tête sur ta borne? Enfin, j'aimerais qu'on en parle avant quand même. Mais tu me diras.
J'ai pas commencé à dessiner ma prochaine borne.
Ce serait une manière pour moi d'aller vite par procuration. c'est pas sympa de rigoler. On va faire un petit interlude projet Feuillidaire. Des petites nouvelles du projet. Donc là, on est à la fin de l'année. La pire année du projet Feuillidaire en termes de levée de fonds, pas en apprentissage. Et donc, j'ai quand même la joie, parce que c'est quand même pas rien, de vous annoncer qu'il y a 2000 euros qui ont été récoltés cette année. Donc, c'est la pire année dans le sens où avant, ça avait été genre 5000, 6000, 6000. Et donc là, ça a pas mal baissé. Je serais intéressé, d'ailleurs, il faudrait que je fasse ça, que je demande aux gens qui ont fait des dons avant, parce qu'il y en a qui donnaient de manière régulière. Pourtant, j'ai bien prouvé que je reversais les fonds, parce que si les gens donnent plus parce qu'ils s'aperçoivent que tu t'achètes des voitures avec, tu peux comprendre. Et donc, c'est plutôt cool parce qu'on passe les 20 000 euros en tout, qui ont été reversés depuis le début du projet. Et je ne vais pas m'arrêter là parce que les chiffres sont en baisse. Et je vais pas non plus dire que c'est de la faute de l'Ukraine parce que les pauvres, ils ont déjà plein de trucs sur le dos. Et en revanche, c'est pour deux raisons qu'on ne voit plus que du kite. Je sais pas si c'était français, mais vous avez compris. On voit d'autres choses que le kite sur la chaîne. C'est parce que sortir du monde du kite, comme disait Lauriane tout à l'heure, où l'argent coule pas à flot, et c'est très bien comme ça parce que je pense que ça préserve son esprit. Je découvre un peu le monde de la voile, et clairement il y a plein de bonnes choses, mais il y a plein d'autres choses qui fonctionnent différemment parce qu'il y avait énormément d'argent. Et surtout, ça va me permettre de commencer à me faire sponsoriser des documentaires, et donc là, croiser les doigts, toucher du bois, parce que j'ai une présentation mercredi. Et clairement, ça permettrait à la chaîne de grossir et surtout d'aller chercher des sponsors et de moins compter sur les dons des gens qui m'ont vachement aidé à monter ce projet au début. Et maintenant, ça me semble aussi très bien que ce soit les entreprises qui participent et qu'elles aient des bénéfices.
Moi, je pense que les
cas
sont devenus trop
chers,
malheureusement.
Ouais, c'est ça, exactement. Putain. Duoton, mon sponsor, qu'est-ce qui s'est passé? Des Neo D-Lab, 2500 balles, bam.
Ah ouais,
c'est hallucinant. Mais j'ai prévu de faire un live avec eux, avec la direction marketing pour qu'on parle de tout ça. Maintenant, tout le monde envoie des cailloux sur Duoton et on n'en a jamais autant vu sur les plages. Donc il y a quand même un truc qui... Voilà, et en revanche, opération de la dernière chance. Ah putain, j'ai pas mis le... Je vais vous le mettre là. Parce qu'il n'y a pas la bonne, le bon lien, mais donc là c'est pas lien en description. Si vous voulez profiter de ce live pour sortir votre petite carte bleue et faire un petit don de 5 euros qui sera 100% reversé à Imagine for Margot, bim, où est-ce qu'il est le lien? Là, bim, je vous le laisse là. Vous allez sur le site et vous faites un petit cadeau de Noël à Imagine for Margot qui sera reversé à 100%. Sur ce, continuons. Et justement, on parlait d'esprit. On parlait d'esprit. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé les NG Kite Tour, qui, donc pour ceux qui savent pas, sont des compétitions qui sont géniales parce que on peut y aller en ayant zéro niveau et faire la course pendant les 3 premiers mètres avec des stars. Et puis ensuite, on les voit partir loin. Et quand j'ai commencé, Théo disait moi j'arrêterai ce sport quand il faudra justement aller à la salle, ne plus boire d'alcool. Est-ce que tu as senti, au-delà des contraintes qui vous sont imposées, des évolutions dans l'esprit du sport?
Ah ben les évolutions, ouais, car- Là, nous, on est... Enfin, maintenant, on est professionnels, on s'est hyper professionnalisés. Là, cette année, les championnats d'Europe, on ne fait plus la fête. Les championnats du monde, on ne fait plus la fête. Tu vois que les gens, ils rentrent se coucher parce que le lendemain des mondes, par exemple, nous, on était déjà sur l'eau à tester des kites. Enfin, on est devenus des athlètes et là... ce qui est cool avec la vie, quand même, ça te permet de décompresser. Mais c'est vrai que, enfin, ouais, c'est là, on voit qu'on est à 2 ans des Jeux et tu te mets plus une caisse à la fin d'une compète parce que déjà, on en fait trop des compètes, donc je pense qu'on n'arrive jamais à s'en remettre. Et ouais, non, on est pro et on essaye de rester, quoi.
Et est-ce que c'est un regret ou tu te dis bah c'est dans le sens des choses et en fait bah parce que après une compète l'idée c'est quoi? C'est que vous dire que la semaine d'après il y en a une autre et il va vous falloir trop de temps pour récupérer et du coup bah il faut plus déconner avec ça quoi.
Non, ça, en vrai, ça s'est passé naturellement quand même, le petit passage de on fait la fête et on fait plus la fête. Je saurais même pas expliquer, mais je pense que ouais, enfin, je pense que tout le monde apprend en maturité et franchement, j'ai pas trop d'arguments. C'est même pas qu'il y a une compète qui suit, mais ouais, se mettre une caisse, avoir pendant 3 jours. Mal au crâne et pas pouvoir aller à l'eau et enfin nous voilà, t'as fini une compète, le seul truc que t'as envie c'est que si il y a des choses qui n'ont pas marché, c'est d'aller les rectifier sur l'eau et voilà quoi. Maintenant on a des échéances et on connaît les dates, donc il faut pas perdre de temps quoi.
Et concernant également l'esprit, est-ce que j'ai vu pendant la course en Grèce qu'on voyait des protestes, donc c'est des gens qui disent il s'est passé quelque chose sur l'eau qui n'était pas normal et qui permet ensuite aux arbitres de prendre une décision et de dire ah oui, effectivement, et donc de déclasser certains, reclasser d'autres. Est-ce que tu sens qu'on rentre dans un moment où il va y en avoir à toutes les sauces, parce que soit pour des bonnes raisons, mais tu te dis quand même là on était border quoi, soit parce que carrément il y en a qui se disent ça va être mon moyen de sauver mon classement.
Là, je pense que plus on se rapproche des jeux et plus il y a des échéances qui sont hyper importantes et plus on proteste, ça va faire changer les choses. Là, par exemple, les Europes, c'est tombé sur Poema, sur le fait que Gisela, elle a très bien compris qu'elle n'allait pas faire le poids contre Poema dans les semi-finales. Et du coup, elle lui a mis un proteste alors que leurs kites se sont à peine touchés avant même d'avoir commencé la
Commencer la
course.
course, ça c'était ouf.
Poema s'est fait disqualifier et Gisela est passée comme ça. Et je pense que là, au final, c'est un mal pour un bien parce que il vaut mieux que ça arrive maintenant que
Ah,
plus
que
tard
par
dans
surprise, le
quelques
jour des
jours.
JO.
Voilà, maintenant on sait qu'il faut pas que les kites se touchent, il faut respecter toutes les règles. Maintenant, ce qu'on fait, c'est clairement, c'est du match racing, c'est de la régate et il faut jouer avec les règles. Et d'aller vite, ça suffit plus parce que si tu vas vite mais que tu respectes pas les règles de priorité, tu sautes. Et c'est aussi simple que ça. Hein. On n'a même pas eu de preuve que les deux kites se sont touchés. C'est sa voix contre celle de Poema et malheureusement, souvent, c'est celui qui proteste qui l'emporte. Et toi, t'as plus que tes yeux pour pleurer et c'est fini quoi. C'est
Alors,
aussi ça.
tu dis qu'il n'y a pas eu de preuve. J'ai re-regardé le live et on le voit en fait qu'à un moment il y a une légère touchette de kite. Mais genre, il y a un kite qui est là et l'autre qui fait ça et puis qui remonte. Tu vois, c'est vraiment le truc. Mais le problème, j'imagine qu'on les arbitre, c'est que si tu dis bah vous pouvez le toucher mais un petit peu, comment tu jauges ce que c'est un petit peu quoi?
C'est ça. Et le problème, c'est que on joue tellement proches les uns des autres avec des kites. Là encore, Poema, elle était en 11. Gisela, elle était en 11. Enfin, c'est pas des gros kites. Mais quand on est en 21 et qu'on est 30 sur la ligne de départ à 1 mètre les uns des autres, enfin, c'est obligé que les kites se touchent. Franchement, C'est hyper rare qu'il n'y ait aucun kite qui se touche sur une ligne de départ, même c'est impossible, je pense que ce n'est jamais arrivé.
Bah donc.
Et je pense que bah, le problème qui va se poser, c'est qu'on va en arriver à bah, combien de protestes, quoi. Est-ce qu'à chaque manche, tu vas essayer de protester tous les gens autour de toi pour faire tomber les quilles et voilà,
Ouais.
quoi. Enfin, c'est un peu là, pour l'instant, on ne sait pas trop. Pour l'instant, il n'y en a que quelques-uns qui jouent là-dessus. Par exemple, on les connaît très bien. Par exemple, Gisela, elle, on sait que, bah, vu que ça fait 10 ans qu'elle fait du kite et qu'elle est connue dans le milieu, je pense. Et, enfin, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi un peu le force. Ça dépend un peu des coachs aussi que tu as, mais tu as des coachs qui vont dire, bah là, toi, tu ne vas rien laisser passer. Donc, si on touche le kite, tu dis proteste et. Et c'est ciao pour lui. Et il y en a qui jouent comme ça, il y en a qui sont toujours fair-play et qui vont pas jusqu'à là, mais bah, est-ce que malheureusement tout le monde va commencer à faire ça? Parce que là, bah, la pauvre Emma, je pense que bah, la prochaine fois, si on lui touche son kite, elle va faire pa pareil et ça va juste être une chaîne sans fin et qu'on va tous arriver à faire la même chose,
Mais
quoi.
est-ce que là, parce que je me souviens très bien qu'on avait fait un live avec Théo, il disait qu'il y avait beaucoup de règles qui avaient été récupérées de la voile, justement, donc des bateaux. Et donc tu peux comprendre que sur un bateau à voile, tu es au départ de la course, si les coques se touchent, c'est un. Ouais, non mais si les coques se touchent d'un bateau à voile, déjà c'est plus facile que ça arrive pas d'une certaine manière, parce que t'as pas 25 mètres de ligne ou 17 ou je sais pas combien. Avant d'avoir un kite, quoi, le bateau il est à un endroit précis. Et ensuite, ben, on l'a bien vu, on le voyait sur les vidéos, Poema, c'est juste qu'à un moment, elle a une petite perte de puissance, elle relance un peu, ça fait un tout petit baiser au kite de l'autre, et puis la course se passe, personne ne se dit quoi que ce soit, et puis à la fin, elle sort de l'eau en disant, je me souviens que avant la ligne, il y a eu touchette, quoi. Et c'est là où tu te dis, est-ce que des règles comme ça, c'est judicieux de les garder en fait?
Bah, malheureusement, les règles, c'est World Sailing qui les définit. Et là, par exemple, nous, on est en plein sur un dossier où les montres GPS sont interdites en compétition. Donc, c'est assez relou parce que justement, c'est des montres qui sont connectées. Donc, nous, on peut avoir des aides pour quand est-ce qu'il faut qu'on tourne, etc. Mais enfin, nous, on travaille vachement avec les montres GPS parce que ça nous permet de voir ce qu'on fait sur l'eau. Et bah, par exemple, là, tout ça, bah, il faut faire remonter des dossiers à World Sailing pour demander de faire changer les règles, mais ça se fait pas comme ça prend du temps. Et puis même si tu demandes, si eux, ils ont décidé que c'était interdit, c'est interdit. Donc je pense qu'en plus, ça, c'est une règle au vent sous le vent, ce qui s'est passé avec Poema et Gisela. Donc en gros, si tu es sous le vent, tu as la priorité par rapport à celui qui est au vent. Donc bah, malheureusement, si t'es au vent et que tu touches le kite, ou je sais même plus trop. Enfin, ça, c'est des règles, ça va jamais bouger. Et du coup, on va toujours pouvoir jouer avec. Et voilà, que le meilleur devant le jury gagne,
Ouais,
quoi.
mais justement, en fait, c'est là où tu te dis, moi je suis le mec qui joue avec la règle comme ça et qui pourrit un athlète parce que 1 minute avant le départ de la course, il a frôlé mon kite. Mais ensuite, tu te pointes plus à une compétition avec le sourire. T'arrives, tu te caches, quoi. Enfin, c'est. Ok, c'était la règle, mais il y a la règle et l'esprit de la règle. Et pour moi, à
C'est
la
la compétition,
compétition
hein.
suivante, ce mec-là, on lui met son van au fond de l'eau pendant qu'il a le dos tourné, quoi. Enfin.
Par exemple, Gisela, elle s'est pas mal fait huer quand même quand elle est montée sur le podium
Ouais.
Europe. Mais après, bah, elle s'en fout, hein. Elle a fait, par exemple, si elle avait un quota sur les Europes et que grâce à ça, elle a réussi à le faire, bah, derrière, c'est toujours, enfin, on part d'argent, hein. On finit toujours par en revenir à de l'argent et c'est de la compétition et c'est des athlètes et au bout d'un moment, ils sont là pour gagner. Et bah, si on te dit, tu fais ça, tu as peut-être le moyen de gagner, bah, pourquoi ne pas le faire, quoi? Enfin, moi, je comprends que si derrière, il y avait un contrat, à 30 000 avec la Fédé, si elle faisait top 3, bah, pourquoi pas essayer de mettre le protest. Enfin,
Oui.
ça va rien lui. Elle, au final, ouais, pendant une semaine, les gens vont se rappeler de son coup foireux, mais elle, derrière, elle est chill, quoi. Enfin, c'est. Je pense que. Ouais, de toute façon, c'est la compète, hein. Et plus on va se rapprocher des JO, et plus ce sera chacun pour sa peau, et voilà, hein.
Tu viens de citer Antoine dans le texte. Plus les JO seront proches, moins il y aura de fair play.
Ouais, bah voilà, c'est exactement ça.
Avant d'attaquer, des petites questions que j'ai mis de côté, et puis si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas à les écrire dans le chat, je les passerai. Est-ce que ça te pèse, vous êtes vachement jamais là, est-ce que ça te pèse pour ta vie de famille, ta vie amicale, ta vie amoureuse? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis j'ai une vie trop stylée? Parce que ça, c'est sûr que quand on vous suit sur les réseaux, ça fait rêver. Mais est-ce qu'il y a un peu un revers de la médaille sur lequel vous communiquez pas beaucoup sur Instagram? Parce que sur Instagram, on affiche que ce qui va trop bien, que les photos où il fait trop beau. Il a jamais plu dans l'année de Lauriane sur Instagram, ni sur la mienne d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des trucs qui te pèsent?
Je pense que franchement, j'ai pas à me plaindre. Je pense que on est un sport où justement tous les déplacements, etc., c'est un peu moi qui décide quand est-ce que je les fais et où est-ce que je vais, sauf pour les compétitions importantes. Donc au final, si je veux passer du temps chez moi, j'ai carrément la possibilité de le faire. Et si je veux bouger, je peux le faire aussi. Des fois, il y a des moments qui sont pesants. Là, cette année, on a eu la fin d'année, on a eu août, septembre, octobre, tout s'est enchaîné, on n'a pas arrêté. Il y avait les Europes qui étaient juste avant les mondes, et avant ça, on avait des trainings partout, tout le temps. Et là, dans ces moments-là, des fois, tu aimerais bien mettre un peu pause et rentrer chez toi et que tout redescende, mais c'est pas possible parce que t'as pas le choix. Et voilà, comme je disais, il y a des échéances et tu dois t'y tenir. Mais sinon, pour ça, non, ça va. On est un sport où je pense qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Et là, je dirais que le seul truc qui me pèse actuellement, c'est justement de rester en France cette semaine, d'être au froid et j'en peux plus. J'ai qu'une hâte, c'est parti. Mais non, pour ça, en plus, ma famille, ils sont vachement derrière moi. Donc, puis j'arrive quand même à les voir très souvent. Donc, non, vraiment, moi, je ne me plains pas du tout là-dessus.
Alors justement, dans le même style, j'ai une question de Romain qui te demande s'il y a eu des moments où tu as eu envie de tout envoyer valser et dire j'en ai marre. Et en fait, tu t'es accroché. Et est-ce que tu as des moments où dont tu te rappelles où tu étais à deux doigts de dire vas-y, j'en peux plus, je vais faire autre chose?
Non, je suis jamais arrivée à ce stade où je me suis dit j'arrête les compétitions et j'arrête tout. Franchement, ça m'a. J'ai toujours cette petite flamme qui me motive à aller jusqu'à la fin. Par contre, oui, il y a des jours où tu subis fort et tu te demandes pourquoi tu es là et pourquoi là t'es pas dans un bureau chaud, les
Non
pieds dans
mais...
les chaussettes, quoi. Non, mais
tu l'as connu la
j'ai
vie de
jamais cette
bureau?
flamme.
Est-ce que tu l'as connu la vie de bureau? Je vais t'en parler moi de la vie de bureau.
C'est comme toi, peut-être que tu rêves d'avoir ma vie, alors que je pense que des fois, il y a des moments où je me rappelle des compétitions en Sardaigne, à Cagliari, on est dans 35 nœuds de vent, en fait, on est un petit sachet de thé au bout de son kite, on se fait brimballer dans tous les sens et il fait froid, et t'as qu'une envie, c'est d'arrêter et de rentrer, mais tu peux pas parce que bah, t'es en pleine compétition. Et c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où tu te dis, mais pourquoi je fais ça en fait? Enfin, là, il n'y a aucun sens à ce que je suis en train de faire et c'est vraiment débile, quoi. Mais c'est vraiment, je pense, plus sur des instants présents où tu es en train de subir et t'arrives pas un peu au craquage, mais tu es en mode, bon, là, physiquement et mentalement, je suis un peu à la limite. Mais en tout cas, sur mon projet, non. Non.
Mais le remède à ce que tu dis, en fait, c'est de prendre du recul, d'aller dormir, et puis de passer la vague, quoi.
T'appelles André, tu manges
C'est
une crème raclette, tu pars au parc.
ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Benoît qui voudrait ça. Alors, j'ai pas entendu parler de l'histoire. On aurait vu des Chinois à l'entraînement à Marseille. Info, intox, raconte-nous.
Donc en fait, les Chinois, c'est une team qui est présente et qui a été présente même avant en 20 pricing. Là, du coup, malheureusement, avec le Covid, bah, ils ne pouvaient plus se déplacer. Donc, c'est vrai que pendant 2 ans, on les a pas vus. Enfin, et même moi, du coup, au final, je les avais jamais rencontrés parce qu'avant ça, je faisais pas de kite. Enfin, pas de compétition, en tout cas. Et c'est vrai que bah, là, ça y est, hein, ils ont pu revenir. Ils ont passé pas mal de temps à Marseille. Et ouais, c'est une team qui marche pas mal, qui marche fort. Il y en a une, Jingle Chen, elle s'appelle. Je l'ai eu plusieurs fois avec moi. Dans mes baskets quand on était en Grèce et ils marchent bien et tu sens qu'ils peuvent, ils ont un gros groupe qui peut carrément créer énormément d'émulation entre eux et d'être un bon groupe de training. Donc, et en plus, s'ils vont passer, je pense qu'ils ont dû passer presque plus de temps à Marseille que nous pour l'instant. Donc, ouais, il y a de la concurrence, mais pas que chez les Chinois. Je dirais vraiment, il y en a partout.
Sauf que eux, vous les avez pas vus parce que confinement en Chine, donc ils bossaient dans leur coin, quoi, c'est ça?
C'est ça, eux, ils s'entraînaient chez eux et ils sont juste revenus et ils ont dit, yo, on est toujours là.
Il reste quoi? Il reste 1 an et demi avant les JO?
Et ouais,
À peu
presque, ouais.
près? À peu
Ouais,
près? Qu'est-ce qui va se
presque
passer
un an et demi après.
d'ici là? Disons pour toi et pour la. Parce que t'es pas encore sélectionné là.
Non,
Ok.
je ne suis pas sélectionnée. Donc là, 2023 sera la sélection. On a quelques infos, mais je ne peux pas trop divulguer encore. Enfin, je ne peux rien divulguer du tout en fait. Mais ouais, les choses se font gentiment. Je fais un peu du zèle, mais j'ai un peu d'infos, mais j'en ai pas trop beaucoup non plus, tu vois. C'est vraiment un peu du tout et rien.
Quand est-ce qu'on
Mais voilà quoi,
saura?
comment?
Quand est-ce qu'on saura?
Ben, je sais pas. Là, nous, de toute façon, on sait que nos prochaines échéances, c'est les prochaines compètes qui arrivent. Donc, on a Palma, tu sais, le trophée Princesa Sofia à Palma. Après, on aura la semaine olympique à hier. Déjà, je pense que ces deux événements seront des événements importants. Et voilà, après, on aura le test event à Marseille. Donc, ben, ils vont sélectionner un athlète pour aller au test event à Marseille. Donc, ben, forcément, la sélection, si tu penses logiquement, va se faire sur les events qui est avant. Donc, avant, il y a quoi? Palma, la SOF. Donc, voilà,
Et
c'est
c'est
déjà.
donc aujourd'hui, on ne sait pas dire tel mois on va annoncer que, ok.
Non.
Et de mémoire, Axel ou Théo en avait parlé dans un live. Il y a une petite part de choix subjectif, mais il y a aussi une part de les résultats des 3 dernières compètes à partir d'un moment donné.
En gros, c'est un peu ça le hic, c'est qu'on ne sait pas trop sur quelle politique ils se basent. Genre, les Jeux Olympiques, c'est une compète, donc ils peuvent se dire que ça va être une seule compétition parce qu'ils veulent que l'athlète soit capable de performer sur une compétition donnée. Donc peut-être qu'ils vont dire, bon, ben voilà, là, l'année prochaine, Palma 2 2024, ce sera l'événement sélectif, donc le meilleur, il y va. Ou alors, bah voilà, comme disait Théo, ils peuvent se dire, nous, bon, on veut de la régularité. Et bah là, à partir de Palma 2023, et on va regarder pendant un an qui est l'athlète qui ressort le plus souvent en tête de liste. Et voilà. Donc, c'est pour l'instant, rien n'est écrit noir sur blanc.
Ok.
On n'a que des bruits de couloir. Et même nous, ça nous saoule parce que bah, voilà, on aimerait bien savoir aussi et savoir à quelle sauce on va être mijoté,
Non mais oui, je peux comprendre que ce soit pénible, ouais. Ouais.
Ouais.
J'ai une dernière question, j'en ai plus dans le chat. Où est-ce que tu te vois, c'est quoi ta vie dans 10 ans?
C'est une très bonne question. Déjà, je me demande si après 2024, je vais vouloir pousser à 2028 ou pas. J'ai fait des études, c'est pas pour rien et j'aimerais bien en profiter. Et enfin, ouais, je pense que j'ai énormément de branches sur lesquelles je peux aller me danser. Et franchement, je vis vachement jour le jour. Je me projette pas trop dans 10 ans. Je pense que je verrai. Je me dis que tout est possible. Peut-être qu'on refera un live dans 10 ans et on verra. Mais non, pour l'instant, ouais, on va dire que ma vie s'arrête 2024, quoi.
Ouais, ça me semble raisonnable.
Ouais.
Passionnant. Écoute, est-ce qu'il y a un autre truc que tu voudrais dire à tout le monde avant de raccrocher le
Moi,
avant de
je veux répondre à Rémi parce qu'il a demandé s'il y a un lien pour me donner de l'argent directement, mais je peux lui envoyer mon RIB s'il veut,
Ok,
direct.
ça marche. Ça marche. Écoute, Lauriane, merci beaucoup d'avoir joué le jeu pour ce live de fin d'année. Qui me permet de me remettre dans le rythme. En plus, tu m'as mis un beau challenge avec ta technique qui était pourrie là, ton ADSL des années 2 là. Et on
C'est
s'en,
ça?
je pense, Pardon?
C'est un petit big up à Théo, paye pas le wifi quoi.
Et donc il y a Rémi qui confirme le virement. Et ouais, merci beaucoup pour ton temps. Et sur ce, bah, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Et puis on se revoit l'année prochaine pour, pour des...